beaucoup.
Merci,
à bientôt,
merci.
Au revoir.
À bientôt.
Et puis, notez aussi qu'il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et d'ailleurs, Virginie incarne aussi cette proposition d'Isabelle Morizet avec son émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur l'antenne d'Europe 1. C'est tous les samedis de 13h à 14h. Isabelle qui fait tomber le masque et qui révèle aux auditeurs d'Europe 1 les mille et une facettes de la vie de son invité. Et ce samedi, elle reçoit Véronica Loubry pour son livre La vie m'a réservé bien des surprises aux éditions Le Duc. Et au carillon d'Europe 1, il est 23h et c'est Maëlle Hassani qu'on retrouve pour les informations. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. L'homme qui a tenté de s'immoler par le feu pendant le procès de Donald Trump est toujours vivant, mais il est dans un état grave, annonce des pompiers de New York ce soir. La scène surréaliste s'est déroulée en face du tribunal de Manhattan où l'ancien président américain est jugé dans l'affaire Stormy Daniels. Avant d'allumer le feu, l'homme a lancé en l'air des écrits complotistes, selon la police. On en sait davantage sur l'homme qui s'est introduit avec de fausses grenades à l'intérieur du consulat d'Iran. Il possède la nationalité iranienne et s'en était déjà pris à l'ambassade de son pays d'origine en septembre dernier. Il avait mis le feu à des pneus devant les grilles du bâtiment et devait être jugé en appel pour ses faits lundi prochain. Le suspect a été interpellé après des négociations menées par la BRI. Il est en garde à vue. Pas de lien établi entre cette intrusion et les tensions actuelles entre l'Iran et Israël. La France réitère ce soir son appel à cesser l'escalade militaire au Moyen-Orient. Ce matin, des explosions ont été entendues dans le centre de la République islamique. Des frappes qui auraient pu être interprétées comme la riposte d'Israël à l'attaque sans précédent du week-end dernier. Mais l'État hébreu ne revendique pas ces actions. La presse officielle iranienne assure qu'aucune information sur une attaque de l'étranger n'a été transmise. Ses positions sur le conflit israélo-palestinien sont largement controversées. La candidate LFI aux prochaines élections européennes, Rima Hassan, est convoquée par la police en audition libre pour apologie du terrorisme. Ce que les autorités lui reprochent, ce sont ses déclaration publique sur les attaques du Hamas en Israël entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier. La militante franco-palestinienne a réagi. Elle promet, je cite, de ne pas se laisser intimider par des manœuvres purement politiciennes. La marche contre le racisme et l'islamophobie prévue à Paris dimanche prochain pourra finalement avoir lieu. Hier, la préfecture de police avait interdit ce rassemblement en raison de forts risques de troubles à l'ordre public. Mais le tribunal administratif suspend cet arrêté ce soir. Plusieurs figures d'extrême gauche sont attendues dans cette manifestation, dont Assa Traoré et des élus LFI. Les deux mineurs mis en examen pour assassinat après le meurtre de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord vont dormir en prison cette nuit. Ces adolescents de 14 et 15 ans ont reconnu avoir fixé un rendez-vous à ce jeune homme de 22 ans sur un site de rencontre en ligne. L'un des deux suspects seulement reconnaît avoir porté des coups. Une marche blanche en hommage à Philippe était organisée ce matin à Grande-Synthe. 1500 personnes étaient présentes. En football, l'OGC Nice s'impose en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Large victoire face à Lorient, 3-0. Au classement, rien ne change. Nice reste 5e, Lorient 16e. Et puis le Fort Boyard est en danger. Le décor de la célèbre émission de France 2 est menacé par les aléas climatiques et des travaux sont nécessaires pour un total de 44 millions d'euros. Annonce du département de Charente-Maritime qui lance une concertation publique aujourd'hui. À l'issue du chantier, en 2028, l'antre du Père Fourat pourrait ouvrir ses portes au grand public. Vous écoutez Europe 1, il est 23h03, la suite de la Libre Antenne, c'est avec Valérie Darmon jusqu'à 1h du matin.
Moi je croyais qu'ils avaient déjà eu lieu les travaux
Et non.
Fort Boyard.
Et bien, des travaux sont nécessaires pour faire face aux aléas climatiques.
Eh bah oui, j'ai entendu. J'ai présenté la météo pendant 20 ans.
Bah, tout à fait.
Allez rejoindre le Père Fourras et préparez votre flash de minuit, qu'en dites-vous?
Mais avec grand plaisir.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h, 1h.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
De nous rejoindre dans la Libre Antenne d'Europe 1. Et si vous le souhaitez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous laisser un SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit. N'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone pour que Juliette et Nicolas vous rappellent. Et vous pouvez nous écrire à libreantenne@europe1.fr. europe1.fr. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Vous m'entendez? Peut-être, je ne sais pas. Alors, on va vous rappeler dans quelques instants, Sylvie. Je crois que vous vouliez nous parler de votre maman, là aussi, rebondir sur le témoignage de Virginie, puisque vous avez en commun d'avoir perdu vos mamans toutes les deux.
22h01, Valérie Darmon est à votre écoute sur Europe 1. Leclerc, bonjour.
Salut. Moi, j'ai hyper envie de faire un fantabuleux fantapéro avec tous mes fantas amis.
Justement, on est en pleine Fanta promo.
Fantastique.
Alors, pour tous les fans de Fanta, le deuxième pack de 6 canettes de 33 centilitres de Fanta orange est à moins 50% du 16 au 27 avril pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe aussi au goût citron, mangue et fruits du dragon. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. La libre antenne d'Europe 1, 22h01, Valérie Darmon.
Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Valérie.
On vous a retrouvé, vous avez composé le 01 80 20 39 21. Merci beaucoup. De quoi vous vouliez nous parler? Je crois que vous vouliez nous parler du décès de votre maman.
Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est vrai. En fait, l'objet de mon appel, c'est en fait de donner espoir à des personnes qui vivent donc d'une situation de deuil comme la nôtre, ou qui sont dans la douleur actuellement par rapport à ça. Et j'aimerais rendre aussi hommage à ma maman, effectivement, qui est décédée il y a 8 semaines, et lui témoigner mon amour infini qui persiste au-delà de la mort.
C'est magnifique. Alors, d'autant que Virginie vient de nous parler de sa maman aussi et qu'elle nous a donné beaucoup, beaucoup d'espoir en dépit de tous les décès qu'elle a traversés. Quel âge avait votre maman quand elle est partie il y a 8 semaines, Sylvie ?
Elle avait 90 ans.
Et elle est partie de quoi ? Elle s'est éteinte de vieillesse ou...
Non, justement. Alors, je me permets de situer un petit peu elle est partie, en fait, suite à des AVC, suite à un AVC. Alors, je me permets de situer un peu le contexte.
Oui, bien sûr.
Si vous permettez, ouais.
On a tout notre temps. Fait... Prenez votre temps. Vous savez, la libre antenne, c'est votre libre antenne à tous. Donc, prenez votre temps. Je vous écoute, Sylvie.
C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, donc, je suis la cadette d'une fratrie de 2 enfants et je suis née 11 ans après mon frère et 2 ans après un bébé qui était mort-né. Donc, mon frère et moi avons été élevés vraiment dans l'amour, la compréhension, l'affection, enfin un soutien total de la part de nos parents. Et donc, moi, je suis née, mon frère était en pension. J'avoue, j'ai été couvée par mes parents et notamment par ma maman. Papa a travaillé, était absent la semaine pour son travail, il rentrait le week-end. Bon, moi, j'étais vraiment dans les jupes de ma maman pendant l'enfance. J'ai été un peu élevée comme une enfant unique, je dirais, vu la différence d'âge avec mon frère.
Et puis, il était en pension, donc étiez toute seule à la maison, en fait, finalement.
Exactement, tout à fait, ouais, tout à fait.
Et puis, la seule fille.
Et la seule fille en plus, oui. Donc j'étais vraiment fusionnelle, alors tant avec mon papa qu'avec ma maman. Et bon, mon frère était, je dirais, un petit peu plus proche de papa, tout en aimant beaucoup ma maman, mais bon, il était un petit peu plus complice avec papa. Alors mes parents ont eu 67 ans de mariage, un mariage très heureux. C'était aussi un couple fusionnel jusqu'au bout. Et... ma maman me disait parfois, vous voyez, avant qu'elle ne soit malade, elle disait, je n'aurais pas pu trouver meilleur mari.
C'est beau. Donc, et c'est une grande chance, grand cadeau de la vie.
Mm. Ah ben franchement, moi c'est un modèle pour moi ce couple.
Et quand vous dites aussi, à l'instant vous avez dit aussi, elle a vécu aussi, vous aussi vous vivez un grand amour?
Non, pas du tout.
Ah, alors là, c'est pour ça que j'ai relevé.
Non, fusionnel en fait, parce que là, nous on est fusionnel avec nos parents, mais eux sont fusionnels aussi. Vous voyez, étaient fusionnels aussi.
Ah, c'est dans les deux
parents.
Sens, voilà. Parents voilà, fusionnels, voilà. Enfants fusionnels. Oui, souvent, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre.
Oui, c'est ce que je pense. Ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Non, moi j'ai je dirais que j'ai réussi ma vie professionnelle, ma vie familiale, amicale, mais pas ma vie sentimentale.
Pour l'instant.
Oui, c'est vrai.
Vous avez quel âge aujourd'hui, Sylvie ?
53.
Voilà, donc pour l'instant,
Ouais, pour l'instant, oui. Et donc nous sommes une famille très soudée. J'ai des très bonnes relations avec mon frère aussi, avec mon filleul, ma nièce, donc ses enfants. Et maman est décédée donc il y a 8 semaines, donc à 90 ans, comme je vous l'ai dit. Papa a 89 ans. Il vit seul dans la maison familiale, qui est donc à 25 kilomètres de chez moi et à 15 kilomètres de chez mon frère. Il a des problèmes pour se déplacer, mais il a absolument toute sa tête, et ça c'est vraiment un élément très important pour la suite de l'histoire. Alors, concernant maman, elle a eu des gros problèmes de santé ces dernières années. Vraiment, on a failli la perdre à plusieurs reprises. Elle a eu 2 infarctus, de nombreux AIT, donc des petits AVC, et au total 4 AVC.
Elle était diabétique, ou elle avait du cholestérol, ou il y avait des signes avant-coureurs des AVC ?
Du cholestérol.
Qui était pris en charge ou pas ?
Oui, tout était pris en charge. Artérite des membres inférieurs. Elle était fumeuse par le passé, mais il y a longtemps. Et voilà, le cholestérol, en fait. En fait, elle avait les artères complètement bouchées, notamment les carotides. Elle avait même été opérée à ce propos, mais bon, voilà, on ne peut pas faire de miracle non plus. Hein.
Oui.
Voilà. Et donc, en juillet 2023, j'ai appelé à 23h chez mes parents pour parler à mon père. Donc, je demande à maman, papa est là ? Elle me dit non, il n'est pas là. Alors que je savais très bien qu'ils étaient tous les deux à la maison. Alors, je lui ai même dit, c'est une plaisanterie. Je pensais qu'elle plaisantait. Et elle me dit non, pas du tout. Et puis, elle se tourne vers mon père. Enfin, je situais ça, elle se trouve, elle dit, elle ne me croit pas. Alors je lui dis, mais qui est avec toi ? Elle me dit, c'est le monsieur, tu sais, qui nous rend visite parfois, notre ami. Alors que je savais très bien qu'il n'y avait pas d'amis qui leur rendaient visite. Hein, voilà. Donc moi, là, j'ai commencé à pleurer parce que je voyais vraiment qu'il y avait un gros, gros, gros souci. J'ai dit, passe-moi le monsieur alors. Et donc, je demande à mon papa qu'est-ce qui se passe. Il était totalement décontenancé, perturbé, il ne savait pas. J'ai pris la voiture, j'ai filé chez mes parents. Elle a été hospitalisée, en résumé, et diagnostic démence vasculaire suite aux AIT. Voilà.
Donc, elle perdait la tête. Elle était en train de perdre la tête.
Ouais, en gros, ouais. Mmh. Voilà. Ensuite, jusqu'à septembre, entre juillet et septembre, on a eu des alternances de phases de lucidité, des phases de confusion. Elle ne reconnaissait plus mon papa en permanence, et seulement lui. Tout nous, elle nous reconnaissait. Donc, elle continue à s'occuper de lui en le vouvoyant. Oui. Elle le confondait en fait avec son beau-père, donc le père de mon père, dont elle s'était beaucoup occupée et qui était décédé en 81.
Oui, donc elle était confuse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était l'ami qui venait leur rendre visite, après ouais. C'était son beau-père, effectivement, il y avait de la confusion. Oui,
oui tout
mais
à
elle
fait,
était
ouais.
quand même autonome, puisqu'elle était quand même à la maison avec votre papa.
C'est ça, et elle s'occupait encore de lui, elle lui servait à manger, vous voyez,
elle faisait encore la cuisine, elle s'occupait quand même un petit peu de son...
Non.
Non, ah, il y avait quand même quelqu'un à domicile, bon, même si vous êtes tout près tous les deux avec votre frère, non?
Bah oui, le quelqu'un à domicile, c'est mon frère et moi.
D'accord, il n'y avait d'aide à domicile.
Non. C'est nous qui faisions à manger, en fait. Surtout mon frère qui est en retraite depuis quelques années.
Donc elle était surveillée comme le lait sur le feu.
Exactement. Ouais. Donc en septembre 2023, elle a fait un AVC, voilà. Elle a été hospitalisée et là, ils ont vu à l'électroencéphalogramme qu'en fait, en juillet, il y avait eu un faux diagnostic et qu'elle avait déjà fait un AVC. Donc, elle en était à son deuxième.
Oui.
Une fois à gauche, une fois à droite. Voilà.
Tout en restant autonome, quand même. Elle perdait le sens des réalités, mais elle était tout de même mobile, autonome.
Oui. Ça, c'était en septembre. Et la suite... en fait, c'était une succession de phases de lucidité et de phases de démence. Alors, c'est un mot, je précise, qu'on n'a jamais utilisé devant elle. Parce qu'elle se rendait compte qu'elle avait des soucis. Elle me disait parfois, c'est quand même terrible, hein, j'oublie beaucoup de choses. Et puis parfois, elle se rendait compte qu'elle avait confondu mon père. Vous voyez, elle reprenait une sorte de lucidité et ça la perturbait. Je voyais qu'elle était souvent, elle avait les sourcils froncés.
Elle cherchait dans sa mémoire en fait. Hein.
Ouais. Alors je la rassurais, je dis mais c'est pas grave maman, tu sais c'est pas grave, c'est les AVC, enfin on minimisait la chose. Voilà, pour pas la troubler. Hein. Oui. Et puis, elle a fini par ne plus me reconnaître, moi. Elle me prenait pour sa cousine, pour sa sœur, pour sa maman, de façon alternative. Et tout en gardant une affection, des bisous, des câlins, de la tendresse, toujours très tactile avec moi. Mais quand je lui demandais qui je suis, elle me disait ben, ma maman. Ou ma cousine, vous voyez. Mmh. Et durant les phases de lucidité, on passait nos soirées l'une à côté de l'autre, puisque comme je vous ai dit, j'étais hyper proche de maman jusqu'au bout. J'y allais tous les deux soirs après le boulot, je la tenais dans mes bras, on se tenait la main. J'ai toujours dit, je lui disais je t'aime très régulièrement. Surtout qu'elle ne l'oublie pas.
Et puis c'est important, je fais juste une toute petite parenthèse en vous interrompant, le toucher, primordial le toucher, oui. Hein, caresser une main, passer une main dans le dos, une caresse sur la joue, c'est très 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 important. L'olfactif et le toucher, c'est très important.
Bah c'est ce que je faisais. Bon, ça c'était pas un gros effort puisque je le faisais déjà avant et que je suis très tactile et voilà, ma maman.
Et puis vous avez été élevée dans le tactile aussi, puisque vous avez une maman qui était câline aussi, puisque c'était une vraie maman maternante.
Oui. Et puis donc sont venues les insultes envers nous, envers mon papa, mon frère, toute la famille, les infirmières qui s'occupaient d'elle, parce qu'elle avait donc deux infirmières par jour à ce moment-là, pour l'habiller le matin et pour la divertir le soir. Et elle nous insultait. Ça pouvait être une salve d'insultes. Mon père, alors là, s'en est pris, des salves terribles, hein, de tous les noms. Elle le traitait dans le dialecte local. Alors qu'en fait, elle s'exprimait en français avant. Elle parlait ou allemand, puisqu'on est en Alsace, hein, donc on est proche de la frontière. Donc soit elle parlait en allemand, soit en dialecte, mais elle ne parlait plus français.
En tout cas, c'est proche des symptômes d'Alzheimer.
C'est ça, mais ce n'était pas un Alzheimer. Mais c'était proche des symptômes d'Alzheimer, oui, tout à fait. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle était toujours très gentille. C'est-à-dire, elle pouvait me délivrer une grossièreté, une insulte, mais ce n'était pas agressif. Ce n'était pas violent, vous voyez. Je ne sais pas comment vous dire.
Comme le syndrome de la Tourette.
Ouais, là, c'est un peu ça. Nous, on disait souvent ça, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et ça faisait même marrer les infirmières parce que...
qu'elle est complètement désinhibée, en fait. Hein. C'était pas à votre rencontre, mais elle était désinhibée, oui.
Exactement, elle était totalement désinhibée, mais à tout niveau, quoi. Alors, parce qu'avant, c'était une dame, il faut quand même que je précise, qui ne disait jamais un mot plus haut que l'autre, limite prude, jamais de grossièreté. Et là, c'était incroyable. Hein. C'était une autre personne, une autre femme. Et ça a été très dur à vivre pour nous pendant, je dirais, 2-3 mois. Une période de 3 mois où il y a eu un effondrement psychologique total, tant de mon père que de mon frère que de moi. Mais alors total. Mon papa m'avait dit, tu dois faire une croix sur la femme et la maman qu'elle était avant. C'est une autre femme.
Les médecins allaient dans ce sens, Sylvie, de toute façon.
Tout à fait.
Est-ce que vous faisiez suivre sur le plan thérapeutique les uns et les autres ou pas pendant ce temps-là?
Oui, moi je vois toujours une psychologue, mon frère aussi.
Oui, parce que c'est important de ne pas rester seul. Oui, voilà, c'est important de faire le deuil accompagné.
Tout à fait. Donc on était vraiment effondrés, la famille ébranlée, et puis. Est venu un temps d'adaptation, est arrivée l'adaptation à la situation. C'est-à-dire que papa et moi avons accepté, même les insultes, ça nous faisait presque rire. Parce que, comme elle disait ça sur un ton très naturel, et on en plaisantait avec elle, et on on lui répondait, mais je veux dire, mais sans l'insulter évidemment. Mais par exemple, si elle me dit, je veux pas dire le mot à l'antenne, mais si elle me donnait un mot vulgaire, bah je lui disais, c'est pas gentil ce que tu dis. Dis donc.
Oui, vous tourniez les choses à la dérision et à l'humour. Exactement. Pour que ce soit plus facile à vivre en fait pour vous.
Exactement.
C'est ça. Oui,
tout
oui.
à fait.
Puisque de toute façon, c'était irrémédiable.
Tout à fait. Exactement. Alors, on avait l'espoir quand même à l'époque que ça s'arrangerait. On était un peu dans le déni quand même parce qu'elle a été mise sous psychotrope et ça a arrangé les choses en fait. Donc c'est vrai qu'on avait l'espoir, mais bon, ça, elle replongeait. Hein. Elle replongeait. Et donc au final, donc c'est vrai que tous les deux soirs, bah moi j'allais faire à manger, je faisais les tâches d'hiver, je m'occupais de maman, la laver, lui laver les cheveux, faire le brushing. Enfin bon, comme elle était toujours très coquette, les cheveux c'était très important pour elle, donc je voulais lui garder sa dignité. Et elle me demandait de lui vernir les ongles encore. C'est marrant. Et donc, j'y vernissais les ongles, j'y crémais le corps. Enfin bon, voilà. J'avais énormément de pitié, d'empathie pour elle. Hein, j'étais vraiment affectée et aussi affectée beaucoup pour mon papa qui, malgré ses problèmes de mobilité, en fait, s'occupait d'elle de façon totalement vraiment admirable.
Ben oui.
Admirable, ouais. Mon frère venait tous les jours pour la logistique, c'est-à-dire les courses, les rendez-vous médicaux, faire à manger. Enfin, il s'en occupait, mais il se pliait pas en 4, mais en 15 hein, pour eux. Hein.
Vous avez une grande chance, hein, Sylvie, d'être comme ça, si soudés les uns aux autres. Hein. C'est très important. Et si près géographiquement, je pense que l'un est lié à l'autre, d'ailleurs. C'est pas hasard.
Exactement.
Que vous soyez pas partis plus loin.
Ouais, c'est vrai.
C'est une grande chance pour cette maman. C'est une grande chance hein, d'avoir son époux à ses côtés et ses deux enfants à ce point soudés.
Oui, elle le mesurait plus. Papa le mesure, bien sûr, on le mesure tous en fait hein, au quotidien. C'est clair. Et en fait, notre obsession, c'était que papa s'épuise. Hein, puisqu'il a quand même 89 ans, et sachant que maman ne faisait plus rien du tout, elle restait assise toute la journée, et donc avec ses problèmes de mobilité, papa se fatigue quand même rapidement, et donc on voulait vraiment l'épargner au maximum avec mon frère. Et donc elle a eu ses psychotropes. Quand elle avait des phases de lucidité, qu'on lui parlait des insultes, elle s'en souvenait pas du tout, ne nous croyait pas. Et on a fini par ne plus rien dire parce que ça l'a perturbée, donc on n'en parlait plus durant ces phases de lucidité. Donc, parfois, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, elle avait des phases de démence, puis à nouveau de la lucidité, on reprenait espoir. Mais bon, voilà, mon frère me disait souvent, c'est régressif en fait. Hein, elle va,
c'est par palier. Oui, c'est par palier en fait. Hein.
Ça va, voilà, ouais.
Et vous avez accompagné le mouvement, c'est-à-dire vous l'avez accompagnée à son rythme. Quand elle était lucide, ben vous étiez dans la lucidité. Et quand elle était un peu plus dans la démence, eh bien vous respectiez là où elle en était, en fait.
C'est ça. Moi, j'ai toujours respecté énormément ma maman, quelle que soit sa situation, même dans la démence. En revanche, c'est marrant parce que je la considérais un peu comme ma petite fille. C'est vraiment, les rôles s'étaient inversés. C'est-à-dire, je lui donnais des noms, des petits noms que je n'aurais jamais donné avant, ma chérie, ma puce, mon amour, mon cœur, vous voyez. C'est-à-dire, elle dépendait tellement de nous que c'était un peu comme un petit enfant, en fait.
Oui, vous étiez devenu le parent de votre parent. Ouais. C'est un peu le sens de la vie.
Oui, c'est un peu
de redonner ce qu'ils nous ont donné quand on a la chance d'avoir de bons parents.
Ah ben là, je veux dire, clairement, on mesure la chance qu'on a eue. J'ai eu une enfance merveilleuse et je disais parfois à maman, dans les moments où même où elle était plus lucide, je lui disais, j'aurais si j'avais dû choisir des parents, je vous aurais choisi. Enfin voilà, voilà.
Et vous avez des enfants, Sylvie, ou pas ?
Non. Non, j'ai pas eu d'enfant. J'ai été mariée, je suis divorcée, j'ai vécu en couple, mais je n'ai pas eu d'enfant. Voilà, alors, pour différentes choses.
Ouais. Alors, votre maman, donc,
oui.
elle s'est éteinte à la maison ou elle a refait un autre AVC ?
Alors, elle a fait un AVC dans mes bras. Elle a fait un AVC dans mes bras, elle était dans un lit médicalisé. Enfin, elle était dans une chaise roulante, je la couchais. ce soir-là. Et elle s'est énervée. Elle s'est énervée parce qu'elle ne voulait pas se lever de sa chaise roulante. Et j'avais un mal fou à la porter. Donc, j'essayais de tant bien que mal la coucher. Elle s'est énervée, elle me griffait. Mon papa a dû enlever sa main de moi parce qu'elle me griffait. Elle était agitée, elle ne voulait pas se lever. Et papa était épuisé. Il était 11h du soir. Moi, il fallait que je rentre chez moi. Et tout à coup, elle est devenue complètement apathique dans mes bras. Mais on n'a pas compris sur le moment qu'elle faisait un AVC parce qu'elle nous avait déjà un petit peu fait ce genre de situation. Quand elle ne voulait pas faire quelque chose, elle pouvait ne plus bouger, vous voyez.
Oui.
Donc on n'a pas réalisé. Alors tant bien que mal, on l'a couchée avec papa. Et le lendemain, elle était toujours dans le même état. À midi, donc là, il a mis en branle l'infirmière, l'hôpital et tout. Et au final, elle était en HAD, en hospitalisation à domicile. Elle ne mangeait plus, elle faisait des fausses routes. Donc, elle a dû être mise sous perfusion, être hydratée, et on ne pouvait plus que communiquer par les yeux.
Oui.
C'est-à-dire, elle nous regardait, on lui parlait, nous regardait. Elle tournait un tout petit peu la tête. Son bras droit ne pouvait plus bouger. Elle était
paralysée.
Paralysée, voilà.
Donc cette fois, l'AVC était beaucoup plus violent que les autres.
Ouais.
Il était en train de l'emporter finalement.
On était encore dans le déni parce que on pensait pas qu'elle allait mourir en tout cas. Alors le soir, je lui tenais la main sous le drap pendant une demi-heure. Elle m'agrippait la main. Elle me laissait pas partir la main. Alors on ne savait pas si elle nous comprenait, je pense quand même, puisqu'elle me tenait la main. 90% du temps, elle dormait. Moi, avant d'aller la voir, je devais prendre des anxiolytiques parce que je m'effondrais en la voyant. Je pleurais sans cesse, en fait, et je voulais pas qu'elle me voie dans cet état, et papa non plus. Donc, on l'a vraiment entourée d'amour. On a tout fait. Grâce à papa, on a pu la maintenir à domicile. Et on a évité l'EHPAD, qui était ma hantise qu'on doive la mettre à l'EHPAD. On s'est vraiment relayé et les nerfs nous tenaient en fait, hein, parce qu'on était épuisés psychologiquement, physiquement. Papa était en train de décliner, ça je voulais pas le voir non plus. Mon frère le voyait, mais moi je voulais pas. Et puis au final, fin février, donc j'en viens à le grand objet de mon appel. j'ai appelé donc après le travail, comme j'appelais toujours, hein, dans l'après-midi, mon papa. Et je dis que je demande comment va maman. Et il me dit ton frère va venir te chercher. Il me dit. Et là j'ai compris tout de suite. J'ai dit maman est décédée. Il me dit oui.
Voilà. Elle était partie dans l'après-midi.
Il l'a trouvée le matin. Vraisemblablement le matin. Donc, quand il est allé à ouvrir les volets, tout ça, voilà. Parce que le corps était froid, le corps était chaud, le visage était froid, donc c'était tout récent. Donc là, ce fut un cataclysme, je dirais, un tsunami. Je suis rentrée, j'ai dormi à la maison avec chez papa, parce que maman est restée sur son lit médicalisé jusqu'au lendemain. On l'a encore embrassée, câlinée, enfin. Enfin, voilà, je la serrais dans mes bras, c'était l'horreur absolue. Après, donc, il y a eu la cérémonie religieuse, la crémation, mise en terre dans une caverne, comme maman le voulait. On a respecté vraiment tout ce qu'elle voulait, absolument. On a décidé d'avoir un reliquaire avec une partie de ses cendres, mon frère, mon papa et moi.
Oui.
Moi, j'étais effondrée totalement, hein, des idées noires, sans être suicidaire, je le précise, mais j'avais juste envie de la rejoindre.
C'est souvent quand on aime très très fort ses parents, on a souvent, même quand on a des enfants d'ailleurs, hein, on a souvent cette, je ne sais pas comment le dire, mais presque cet appel à un moment donné de se dire, bon ben alors à quoi bon ? Et puis après, le temps du deuil se fait. Et on prend le temps de faire le deuil. Mais très souvent, quand on est très très attaché à un de ses parents, ou à ses parents d'ailleurs, on a cette impulsion de se dire je veux partir avec eux, en fait.
C'est tout à fait ça.
Ce qui n'est absolument pas demandé par la vie, en vrai.
Mais oui, je sais bien. Et c'est ce que mon père me répète sans cesse.
Et oui.
parce qu'en fait, faut que je précise que j'ai un problème, un gros problème avec la notion de mort. Depuis des années, la mort de mes parents, c'est une obsession. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait suivre par une psychologue parce que je ne vivais plus quand ils étaient encore en forme.
Vous voyez, donc ça date d'il y a 10 ans. Vous aviez tout le temps peur.
Ouais, j'ai fait l'EMDR pour travailler là-dessus. Ça m'a beaucoup aidée.
Oui.
Et donc là, c'est arrivé. J'étais en face de la réalité, en fait. Hein.
Voilà. Bon, vous aviez travaillé. Alors, on ne se prépare pas. Quoique, mais en tous les cas, vous l'aviez déjà évoqué à plusieurs reprises en séance, ce qui fait que quand la réalité arrive, c'est un petit peu moins violent que quand on est dans le fantasme et qu'on le prend de plein fouet, en fait, hein, et qu'on la prend de plein fouet.
C'est ça,
Et parfois même, il y a des séances, hein, ce qu'on appelle le scénario du pire, où on se prépare au pire, en fait. Et on se rend compte que finalement, on peut poursuivre sa vie. Parce que tout cela est émotionnel. Hein. Le mental, il résonne, bien sûr, que dès qu'on est, on peut mourir. Hein. Ça, c'est de
bien
fait.
Sûr.
Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ces séances EMDR, on peut un tout petit peu atténuer ses angoisses.
Bah, disons que ça m'a permis, en tout cas, de profiter de mes parents jusqu'au décès de maman. Parce que il m'arrivait d'aller chez eux et de partir. Je pleurais pas devant eux, mais je pleurais dans la voiture alors que tout allait bien. Mais simplement en me projetant sur leur éventuelle disparition, vous voyez.
C'est donc, ça. Vous n'étiez pas au présent, vous anticipiez tout le temps le pire, justement.
C'est ça.
Ouais.
Et le MDR m'a permis justement d'avoir ces...
Oui.
Voilà, c'est ça. Et de profiter totalement d'eux. Alors, maintenant, j'en viens donc à autre chose donc, qui s'est passé chez nous. Donc, 3 jours après le décès de maman, certaines manifestations ont commencé.
Manifestations, c'est paranormal, vous voulez dire ?
Oui. Alors, je précise que nous sommes une famille extrêmement rationnelle, cartésienne, surtout mon papa. Qui a toujours dit je crois ce que je vois. Donc on est croyant, mais comme beaucoup de gens, avec beaucoup de doutes, vous voyez, pas pratiquant, avec beaucoup d'incertitudes. Et moi, mon angoisse surtout ultime, c'était qu'il n'y ait plus rien, que maman soit, qu'il n'y ait plus que les cendres et qu'elle n'existe plus. Et ça, c'était terrible pour moi. Je me posais la question, en fait, vous voyez.
Oui, ça rajoutait à l'angoisse.
Ça rajoutait à l'angoisse, oui.
Moi, je dis toujours que les croyants ont une grande chance. Parce qu'effectivement, ça se poursuit. Donc forcément, tout de suite, c'est moins angoissant.
Ben, c'est marrant parce que c'est ce que mon père me disait exactement. Les croyants, ceux qui croient ont une grande chance, oui. Tout à fait, ouais. Et donc, j'étais avec papa à la cuisine, on regardait la télé. Et moi, j'avais la main devant le visage parce que j'avais les larmes qui coulaient. Je ne voulais pas qu'il le voie. Je ne voulais pas l'affecter. Et à 22h10... Exactement. La sonnerie du téléphone, une fois, du fixe, dans le couloir, j'entends sonner. Une seule fois. 15 secondes après, une autre fois. Et c'est tout. Bon. J'ai dit à papa en plaisantant, c'est peut-être maman. Mais pas du tout, j'y croyais absolument
Ou
pas.
Ou peut-être une erreur.
Oui, voilà, évidemment. Mmh. Évidemment. Hein. Ensuite, pendant 2 mois, il y a eu une succession de différentes choses. Alors, par exemple, ça a sonné à la porte. Papa est allé ouvrir. Il attendait son infirmière, en fait, puisqu'il est suivi également. Personne à la porte. Ils ont un terrain. Personne sur le terrain. Personne, pas de voiture devant la porte.
Juste la sonnette qui s'est mise en marche toute seule.
Toute seule, ce qui n'est jamais arrivé avant, hein, jamais. Il a été appelé dans la nuit sur son portable qui a sonné, pareil, à 2 reprises, à une 20aine de secondes d'intervalle, juste une sonnerie.
Et un numéro de téléphone s'est affiché ou pas ?
Eh bien, écoutez, alors il a regardé, il avait appelé un ancien collègue la veille pour l'informer du décès de maman, mais il ne l'a pas eu, il a laissé un message sur son fixe. Et il s'avère que ce collègue que nous avons eu au téléphone 3 semaines après n'a jamais eu le message, puisqu'il ne regarde pas son téléphone fixe, il ne fonctionne plus qu'au portable. Donc en fait, il n'a pas appelé.
Oui, puisqu'il ne savait pas, il n'avait pas de raison de téléphoner. Oui.
Ah ben non, et surtout pas à 4h du matin.
Oui. Donc, qu'est-ce qui était affiché sur le portable de votre papa, Sylvie, à ce moment-là?
Le nom du monsieur. Le nom de ce collègue.
Et lui, il n'avait pas de trace de son téléphone portable, à lui, comme quoi il avait appelé votre papa à 4 heures du matin. Il n'avait pas de trace.
Non.
D'accord. D'accord.
Papa est un petit peu obsessionnel sur les lumières, sur le fait d'éteindre les lumières. Donc, il fait le tour de toutes les pièces le soir pour voir si les lumières sont éteintes. Il s'est réveillé le lendemain matin, il est allé à la salle de bain, la lumière était allumée à 9h du matin. Bon, là aussi, on se dit encore, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est possible dans le sens, ça peut être un hasard. Ouais, mm-hmm. On se demandait, mais voilà,
sans faire cas de ce qui se passait. Jusqu'à maintenant, voilà, vous restiez pragmatique. Pourtant, ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait le téléphone fixe qui sonne, ça fait la sonnette qui sonne, c'est le portable à 4h du matin et la lumière allumée dans la salle de bain. Ça commence beaucoup de petits faits.
Ça fait beaucoup de petits faits, mais c'était tellement improbable pour nous. Voilà. Vous voyez que...
Ce sont des coïncidences.
Bah, on se demandait, on s'interrogeait. Ensuite, ils ont un ancien four, dont l'horloge... La montre ne fonctionnait plus depuis 2 ans. Maman m'avait demandé si j'arrivais à la réparer. Si j'arrivais pas, elle donnait à chaque fois 1 heure différente. En fait, elle était fichue. Même un réparateur avait dit on peut plus rien faire. Cette montre s'est mise à l'heure, toute seule.
Ah oui.
L'heure exacte du micro-ondes.
Ça commence à être incroyable.
Ouais. L'heure exacte qui était sur le micro-ondes. Et le summum est arrivé il y a environ 10 jours. Papa était couché et la nuit, à 4h du matin, il a été réveillé par une lumière. C'était une projection sur la table de nuit, sur le côté de la table de nuit, une photo en noir et blanc. Et je lui ai demandé à 15 reprises s'il ne dormait pas. Il m'a affirmé non, je ne dormais pas. Au contraire, il a même mis la main devant, l'image se projetait sur sa main. Cette photo représentait, c'était des gens assis, qui avaient l'air heureux. Et c'est, voilà.
Des gens qu'il connaissait ?
Pas du tout.
Donc une projection d'une photo noir et blanc, la photo ?
Comme une diapo.
Noir et blanc.
Noir et blanc, comme une diapositive.
D'accord, donc deux gens sur le côté de la table de nuit, projection de la photo qui vient de nulle part, en pleine nuit, avec des gens qu'il ne connaît pas, mais qui ont l'air heureux.
Oui, voilà. Le lendemain, nous on parlait à maman, mais on commençait à parler chacun, enfin moi chez moi, à haute voix parfois, comme ça je lui disais... des choses, lui parler aussi parfois, ou devant les cendres, voilà. Et il a demandé, il a dit, si c'est toi...
Fais-moi un signe, signe.
Il a dit, je voudrais revoir cette photo, parce qu'il aurait voulu voir les visages. Mm-hmm. Vous voyez ? Cette photo est réapparue le lendemain.
À quel endroit ?
Pareil, même endroit. Mais quand il s'est couché à 10h du soir, c'est-à-dire... Il venait de se coucher, donc il ne dormait pas, sûr.
C'était la table de nuit de votre maman ou c'était celle du côté de votre papa ou
du
la photo...
côté de papa. Ouais. Du côté de papa. Et là, la différence, c'était les mêmes personnes, mais les mains bougeaient. C'est-à-dire, ils avaient les bras en l'air, dans un signe, alors qu'ils voulaient dire soit bonjour, soit au revoir, ou une fête, on ne sait pas.
Donc la photo était animée, là. C'est comme une vidéo.
Comme une vidéo, toujours en noir et blanc.
Et il a reconnu les visages ou pas cette fois-ci ?
Non, alors cette fois les visages étaient plus flous. En tout cas, il n'y avait pas maman sur la photo. La première fois, il a vu un peu les visages, mais il a vu une jeune fille, il a vu, vous voyez, mais il n'a pas...
Il n'a pas reconnu.
Non. Et les derniers signes qu'il a eus, c'était il y a peu de temps. Trois musiques lancinantes. Il a des oreillettes, papa. Vous savez, il a pour bien entendre.
Oui.
Voilà. Et donc, il les enlève la nuit. Et quand il était couché, des musiques ont commencé dans ses oreilles. Il n'a pas d'acouphène, je précise. Il a eu des musiques dans la tête, dans une vraie musique, comme un standard téléphonique, c'est-à-dire des musiques lancinantes, du style la 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 la, vous voyez.
Ouais, est-ce qu'il les connaissait, ces musiques? Est-ce qu'il y avait une musique en lien avec, votre maman, avec son épouse?
Non. Mais ce qui est marrant, il m'a dit, c'était comme une musique d'attente. Il m'a situé
une musique
ça comme
d'ascenseur,
un standard.
Un peu, oui.
Non, d'attente.
D'accord. D'attente,
voilà. Alors voilà, donc aujourd'hui, au final, nous, on a la certitude qu'il y a quelque chose après la mort. Ça c'est, maintenant, on en est certain, ce qu'on n'avait absolument pas avant. On est persuadé que maman a voulu nous rassurer, que c'est lié probablement à l'amour infini qu'il y avait entre eux deux et dans la famille. Ça c'est certain. Écoutez, je voudrais juste citer une phrase que papa m'avait dite et que je trouve magnifique. Je lui avais dit, quand j'étais dans la douleur, je lui ai dit, tu sais papa, j'ai l'impression, on était une table, comme une table à quatre pieds. Toi, maman, mon frère et moi. Et aujourd'hui, il manque un pied et la table est bancale. Et il m'a dit, il y avait un cinquième pied, c'est l'amour qui nous lie. Voilà. Et cette phrase, j'arrête pas de l'avoir en tête parce que je la trouve magnifique. Et c'est vraiment ce qui situe ce qui s'est passé au sein de notre famille. Et je pense que c'est lié à ce que les signes qu'elle a voulu faire parce que c'est, voilà, je commençais un petit peu à lire des livres scientifiques écrits par des scientifiques sur
la vie après la mort, hein, ou la vie après la vie, ça dépend comment.
Voilà.
Oui. D'ailleurs, j'incite nos auditrices et nos auditeurs à nous appeler s'ils ont des témoignages du même ordre ou même contre, d'ailleurs, pour livrer aussi leur point de vue. Moi, j'avais envie de vous dire, là, ce qui m'est venu, c'est que le quatrième pied dans le visible n'est plus là. Mais peut-être que dans l'invisible,
vrai.
Il est toujours là.
Ah ben oui, vous avez tout à fait raison.
Parce que finalement, la frontière, on le voit, pour ceux qui croient, moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a un Dieu pour les non-croyants. Alors, on met ce qu'on veut dans le mot Dieu, hein, bien sûr.
Oui, voilà, hein, tout à fait.
Voilà. Donc, effectivement, dans le monde visible, il n'y a plus le pied, mais dans le monde invisible, peut-être que votre maman est toujours là et visiblement, tous ces signes sont en train de le montrer. Est-ce que vous et votre frère, vous en avez eu aussi?
Alors, écoutez, moi, pas du tout. Mon frère a une bouteille qui s'est déplacée. C'est-à-dire, il avait monté de la cave une bouteille qu'il avait mise sur l'escalier. Et il avait demandé un signe à maman, en fait, un signe visible. Il lui avait demandé ça. Moi aussi, hein, j'avais demandé, mais j'en ai pas eu. Et donc, quand il a voulu emmener cette bouteille dans sa chambre pour la nuit, en fait, cette bouteille n'était plus sur l'escalier. Il l'a cherchée absolument partout, dans toute la maison, partout. À la salle de bain, il y est allé trois fois. Quand ma nièce est rentrée, sa fille, elle a vu une bouteille posée sur le plan de travail de la salle de bain. Une grande bouteille, hein, une bouteille d'eau. Et elle s'est demandé ce qu'elle faisait là. Et voilà, et mon frère l'a trouvée le lendemain, donc elle était sur le plan de travail.
Oui, elle avait été déplacée, en fait. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, hein, aussi, hein. Alors, on a quelqu'un, Cathy, qui nous dit au 739-21 « Merci de ces belles histoires d'amour familial. Attention à ne pas généraliser. Même lorsqu'on est croyant et que l'on a eu des signes de l'au-delà, la mort et l'absence sont très douloureuses. » C'est tout à fait vrai, Cathy. Ça n'empêche pas, évidemment, l'absence, le manque, hein, évidemment, et la mort. Après, ce qu'on était en train de dire avec Sylvie, c'est que le fait d'avoir des signes, et je pense que c'est l'objet de votre appel, Sylvie, peut atténuer un tout petit peu la douleur, c'est ça?
Est-ce c'est que exactement
le fait, voilà, le fait d'avoir eu ces signes répétitifs en plus, hein, au cas où vous ne les auriez pas bien compris, peut-être que, et je mets des guillemets parce que évidemment ça n'engage que moi, elle a renvoyé plein de signes, votre maman, finalement, pour bien être sûre de faire entendre.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça a changé pour vous, votre frère et votre papa, finalement?
Alors, je vais commencer par papa. Papa, je l'ai vu effondré. Je lui avais fait promettre sur le lit de mort de maman qu'il ne se laisserait pas aller. Je lui ai dit, j'ai besoin de toi. Je pleurais, je lui ai dit, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi avec mon frère. Et il me l'a juré. Et effectivement, il ne s'est pas laissé aller. C'est lui qui m'a tenu la tête hors de l'eau, en trouvant des paroles rationnelles, etc. Il ne s'est pas laissé aller, mais il était effondré, je le sais. Mais il intériorise tout, papa. Donc, il n'est pas aussi, il ne montre pas ses sentiments comme moi. Et vous voyez, ça, je veux dire, donc, mais je le voyais effondré. Oui. Ouais, je l'ai vu, il est très pudique, extrêmement pudique. Et pour nous, il ne s'est pas laissé aller, en fait. Et donc j'ai vu effondrer et ses signes ont tout changé. C'est-à-dire, bien sûr que la douleur est toujours là, mais aujourd'hui, je le vois,
il poursuit sa vie.
Voilà, oui. Voilà. Alors que, franchement, mon frère et moi, on craignait une chose. On s'est dit, mon Dieu, si un des deux parle, l'autre
le rejoint. Oui, oui. Ah, c'est ouais, souvent c'est ce qui se passe. Hein.
Ouais. Et donc concernant mon frère et moi, eh bien pour nous c'est le plus beau cadeau, le plus beau témoignage d'amour de la part de maman. Pour nous c'est vraiment l'amour au-delà de la mort, vous voyez. Et elle savait combien ce serait difficile pour moi. Vous savez, elle m'avait fait promettre quand elle était encore il y a quelques années, hein, que le jour il arriverait quelque chose à mon papa ou à moi ou à elle, que j'irais tout de suite me faire aider par une psy.
Oui, parce qu'elle savait que vous n'étiez pas solide, que c'était ce que vous redoutiez le plus. Ouais.
Ouais. Elle en avait parlé à de la famille, à des voisins, même elle le craignait. Elle m'avait une fois dit « on s'aime trop », qu'elle m'avait dit. Alors je lui avais dit « on ne s'aime jamais trop, tout ce qui est pris est pris ». Mais elle avait un peu raison sur c'est que le revers de la médaille, c'est que c'est...
Ah bah, le manque est à la hauteur de tout l'amour porté, de tout l'amour partagé.
Oui. Ouais.
Oui, ouais. Comme le disait Virginie tout à l'heure, en tous les cas, dans la vie, voilà, dans l'instant, dans le présent, c'est important de prendre tout ce qu'il y a à prendre.
Oui,
c'est là où je vous rejoins.
Oui. Profiter, dire à ses parents qu'on les aime quand ils sont là et ne pas regretter de ne pas l'avoir dit avant ou de ne pas avoir fait ceci, cela avant. Nous, mon frère et moi, on n'a aucun regret parce qu'on a tout fait pour maman du temps et on fait tout pour papa aujourd'hui. Et on n'aura pas, au moins, on n'aura pas de regrets, vous voyez.
Oui, c'est très, très important. Et surtout, les faire témoigner tant qu'ils sont là, qu'ils peuvent parler, qu'ils sont lucides. Moi, je dis souvent à mes patients et patientes, quand comme ça, il y a des fins de vie, interviewez-les. Voilà, oui. Faites-leur raconter leur vie, leur enfance, ce qu'ils ont envie de vous le dire, ce qu'ils ont envie de dire aux petits-enfants, parce que c'est important, même si on ne réécoute pas forcément les interviews, les enregistrements, d'abord on a la voix, on garde la voix, oui. En mémoire, on l'a, et puis c'est un héritage aussi.
On regrette de ne pas l'avoir fait pour maman, effectivement, et ça on voudrait le faire pour papa, ouais.
Et ça, c'est très important. Ça atténue beaucoup, beaucoup la peine parce que du coup, ça libère la parole. Oui. On se dit des choses qu'on n'a pas l'habitude de se dire ou qu'on n'ose pas se dire, surtout pour des générations anciennes où c'est difficile de dire « je t'aime ».
Oui.
Parce qu'il y a de la pudeur, souvent pour les papas, justement. Les mamans, parfois, elles sont un peu plus démonstratives, mais les papas, ils n'osent pas dire combien ils aiment leurs enfants. Donc avec cette interview, c'est facile de les amener, de raconter, de poser des questions. Voilà, on se lâche, en fait.
Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Alors ce qui est marrant, c'est que... Marrant, je veux dire, ce qui est un peu paradoxal, c'est que papa, qui vraiment n'est pas tactile du tout, beaucoup plus affectueux, enfin, montre plus son affection, en tout cas aujourd'hui, me montre plus son affection. Comme je n'ai plus maman, il remplace un petit peu, vous voyez.
Il compense.
Parce que j'ai ce manque, il compense. Et je trouve ça me touche énormément parce que c'est pas dans son caractère et de me prendre dans ses bras, tout ça, et il sait le faire. C'est le faire aujourd'hui, vous voyez.
Oui.
Et je trouve ça très beau et je pense que ça fait plaisir à maman si elle le voit.
Oui, qu'il témoigne comme ça aussi, par le tactile, par le toucher. Alors, moi, ce que je conseille aussi, c'est que pour les papas qui n'osent pas, parce que la génération de votre papa à vous, bah, le faire quand même. C'est-à-dire leur dire je t'aime, leur dire je t'aime, et parfois essayer de les prendre dans les bras un peu malgré eux, alors au début ils sont un petit peu gauches, etc.
Oui.
Mais quand même le faire, parce que là aussi ça restera. Et c'est ça qui est important.
Ouais.
Est-ce qu'elle a fait un signe à sa petite fille? Parce que parfois ça passe plus facilement par les petits-enfants. Bon là, elle a son époux qu'elle a aimé toute sa vie, mais sinon ça passe souvent par les petits-enfants aussi.
Non, Non. On a eu quelque chose, mais tout au début, le jour du décès, mais je ne sais pas si c'est à relier ou pas. C'est un tas de bûches qui s'est écroulé chez mon filleul, chez son petit-fils, un tas de bûches qui était en place depuis je ne sais plus combien de un an, et puis tout à coup, tout s'est écroulé sans aucune raison. Bon, voilà. Après, oui. On peut
quand
tout
on est
relier.
Quand on est pragmatique, c'est vrai qu'au début, on se dit, mais c'est pas grave, quoi. Mais souvent, il y a des odeurs aussi, parfois. Il y a des odeurs ou des musiques qui nous rappellent des choses. Moi, je dis que pour les sceptiques, et qui ont perdu des êtres chers, on n'a rien à perdre à tenter de demander des signes.
Oui.
Voilà.
C'est ce qu'on a fait. Hein.
Voilà.
On était très demandeurs.
Voilà, c'est ça. On n'a rien à perdre à demander. On les a, et ben on est heureux de les avoir.
Ouais,
et puis
ouais.
On les a pas, ben c'est pas grave puisqu'on n'y croit pas.
Oui.
Mais au moins, demander. Parce que selon les croyances, selon les peuples premiers, selon les sages, effectivement, il y a une âme. Et cette âme, au départ, elle n'est pas loin.
Oui.
Voilà, après, il faut la laisser tranquille le temps qu'elle monte là où elle doit monter, en fonction des croyances. Mais en tous les cas, on n'a rien à perdre à demander.
Alors, vous me demandiez, je vous ai parlé de mon papa au bilan, enfin, au final.
Oui.
Donc, ce qu'il a. Et aujourd'hui, mon frère et moi, bon, ça nous a énormément aidés dans l'acceptation, parce que moi, au départ, j'ai mis beaucoup de temps à accepter son départ, même si elle était. Mon père n'arrêtait pas de me dire, de me donner des paroles très rationnelles, de me dire mais elle était très malade, elle avait 90 ans, voilà bon, il essayait d'essayer de me mettre un peu les pieds sur terre, mais c'est vrai que je n'acceptais pas, pour moi elle était toujours là, j'avais du mal à supporter,
accepter,
à l'accepter,
oui.
Hein, ouais. Et en fait ces signes ont vraiment changé. C'est-à-dire dans le travail d'acceptation, je pense que j'ai gagné des mois de psychothérapie parce que non mais vraiment, hein, c'est incroyable. Hein. Moi, je remercie maman, je lui dis que c'est le plus beau cadeau qu'elle aurait pu nous faire, franchement. Alors c'est sûr, hein, il y a encore de la tristesse, il y a encore des jours sans, mais maman me manque terriblement. Mais voilà. Et maintenant, le problème, c'est que j'ai une peur pathologique de perdre papa.
Mais maintenant, vous êtes suivie. Et vous savez que ça ne s'arrête pas là. Et surtout, mais même si ça devait arriver, votre papa retrouvera votre maman. Parce que dans les Near Death Experience, puisque vous êtes en train de lire toute la littérature autour des NDE, bah vous voyez bien que nos proches nous attendent de l'autre côté, lorsqu'on y croit. C'est toujours pareil.
Oui.
Hein,
oui.
Pour ceux qui n'y croient pas, bon, on retourne poussière et puis voilà. Mais bon, quand on a des signes, après, on a du mal à revenir en arrière.
Oui. Mais papa m'a promis...
De vous faire des signes aussi.
Ouais.
Voilà.
S'il le peut, il m'a dit, c'est clair, mais on est tellement fusionnel aussi avec papa. C'est dingue parce que autant j'étais fusionnelle avec maman, autant je suis complice avec papa. C'est les deux, quoi. C'est vraiment... on a les parents. Pourtant, ils m'ont eu tard, vous voyez. Hein, maman avait 38, 37 ans quand elle m'a eu, 38 ans, 37. Donc à l'époque, c'était tard. Vous voyez, pour l'époque, en 70.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Mais j'ai eu des parents d'une extrême, j'ai pu tout raconter à papa.
Bienveillance. Une extrême bienveillance.
Ouais, bienveillance, ouais. Et puis de la complicité, très jeune d'esprit. Vous voyez, j'ai bien plus jeune que des parents beaucoup plus jeunes de mon entourage. Vous voyez, donc c'est vraiment, franchement, on a eu beaucoup de chance, mon frère et moi.
Oui, et puis vous en avez encore.
Et on en a encore, ouais. Et lui répercute, mon frère, sur ses enfants. Il est extrêmement proche de ses enfants.
Il a combien d'enfants, votre frère ?
Deux.
Et vous êtes proche de vos neveux et nièces ?
Ouais, très.
Donc, la chance aussi, c'est d'avoir ses parents jusqu'à de bons parents, comme les vôtres, hein, bien sûr.
Oui.
C'est déjà une chance à la base, avec cet amour solide, de vous entendre bien avec votre frère. Et on le sait, comme c'est rare et comme c'est précieux quand on écoute les témoignages de la Libre Antenne d'Europe 1 aussi, les gens qui sont seuls. Et là, vous êtes tous les deux proches, à égalité, près de votre papa, près de votre maman, près géographiquement. Tout ça, c'est rare.
Oui.
Et vous avez gardé votre maman, c'est vrai, jusqu'à 90 ans.
Oui.
Hein, c'est presque un siècle. Hein.
Ouais, je sais.
Ça, c'est un grand cadeau. Et votre papa a 89 ans. Ça aussi, c'est un grand cadeau. Et chez eux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, finalement.
Il faut que je me dise.
Ah, ben oui. Donc, finalement, vous voyez tous les cadeaux de la vie.
Oui.
Et même dans la mort, votre maman, elle vous fait des cadeaux. Alors, comment dire ?
C'est magnifique. Enfin, ce qu'elle a fait, c'est juste magnifique, quoi, en fait. Hein, je peux pas, j'ai pas de mots, hein, j'ai pas de mots. Je la remercie, je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a aidé encore au-delà de la mort. Quoi. Enfin, elle m'a aidé, elle nous a aidé au-delà de la mort.
Quoi. Oui, puis elle vous aide visiblement, c'était il y a 8 semaines, hein. C'est pas loin.
Ouais.
Donc,
c'est pas loin.
Voilà.
Ouais.
Donc peut-être que. Puis vous savez, même après, quand on, toujours une, encore une fois, quand on y croit, on peut avoir des signes plus tard, hein, plus tardifs.
Oui,
on peut demander.
Oui.
Voilà. Et quand on les a vécus, on peut pas. C'est ce que je dis toujours. Moi, je suis de tout cœur avec vous parce que j'ai vécu ce que vous nous racontez à plein de reprises. Donc, je ne vais pas raconter ma
d'accord.
vie sur l'antenne, mais j'y crois fondamentalement. Et même quand on n'y croit pas, une fois qu'on a vécu ce signe de l'invisible,
c'est ça.
Bah, on est obligé d'y croire finalement, et on n'a pas de mérite.
Ah, carrément. Oui.
On n'a plus de mérite parce que de toute façon, les signes se sont multipliés.
Oui.
Alors la question qu'on se pose, c'est la part de ce qu'on a envie de voir, et est-ce que nous-mêmes, on ne va pas créer des signes parce qu'on a envie de se rassurer, ou est-ce que ce sont de vrais signes? Mais c'est vrai que des appels téléphoniques, ou la radio souvent, parce qu'il faut bien des moyens de communiquer, comme nous on en a des moyens de communiquer, là on se parle à la radio, bon, la radio qui s'allume, la radio qui s'éteint, une musique qui a du sens qui se met en route, des odeurs de parfum, etc., dans des familles archi-rationnelles, archi-pragmatiques, il y a des quantités, des quantités de témoignages qui vont dans ce sens, finalement.
Mais c'est marrant parce que papa me disait, on me l'aurait raconté que je ne l'aurais pas cru. C'est vrai que c'est très difficile à croire quand on ne le vit pas.
C'est ça. Mais une fois qu'on l'a vécu, bah après, on se dit, bah, de toute façon, je sais que je ne suis pas fou ou folle.
Oui, oui.
Et je suis rationnelle et pragmatique. Donc, si je l'ai vécu, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Voilà. C'est un peu 1 et 1 égale 2, en fait. Hein. C'est ça.
La physique quantique s'en approche un petit peu, hein, maintenant. On commence à s'en approcher de...
On est tous de l'énergie. On est tous de l'énergie. Et tous les textes sacrés parlent de ça aussi, hein. Et même les religions monothéistes croient en la réincarnation. Donc, on vient bien de quelque part et on va bien quelque part. Si on est croyant en ces textes sacrés. Ou dans la physique quantique aussi. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui convergent vers ce que vous êtes en train de nous exprimer.
Mais je dirais que ça va au-delà de la religion, parce que là, en fait, rien ne nous a dit qu'il y avait un dieu ou machin. Elle nous a pas parlé en ce sens.
Ouais. C'est pas spirituel. Ouais. Vous avez raison. Vous avez raison de le souligner, Sylvie. C'est peut-être de l'énergétique, tout simplement, ou des vibrations, ou une question d'âme, puisque je ne sais plus combien pèse l'âme. Il y a eu un film sur le poids de l'âme, plusieurs films d'ailleurs.
Ouais.
Je crois dont un avec Vanessa Paradis, il me semble. Donc,
d'accord.
Alors voilà, Nicolas me souffle, 258 grammes, parce que c'est un domaine qui le passionne, la physique quantique.
Donc,
il écoute attentivement le témoignage. Donc,
Et d'autres personnes ont témoigné aussi, vous dites qu'il aurait, enfin vous-même avez vécu ça vraisemblablement, donc, et d'autres personnes, encore d'autres auditeurs.
Alors les auditeurs ce soir là, n'ont pas beaucoup téléphoné, en revanche on a pas mal de messages au 739-21 qui vont dans le même sens que vous et qui nous racontent les signes qu'ils ont vécus, notamment avec des musiques qu'ils ont entendues au moment de la traversée de leur défunt. Donc effectivement, mais si vous lisez Raymond Moody par exemple, ou Marie de Henzel, ou Elisabeth Kubler-Ross, tous ces gens-là, qui sont d'ailleurs des personnes de renom, hein, et souvent des médecins, etc., ou des psys, vont dans ce sens-là. Puisque le docteur Raymond Moody, qui a écrit les premiers ouvrages sur la vie après la vie, était médecin.
Oui,
hein.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a toute une littérature. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Sylvie, d'avoir témoigné ce soir dans la Libre Antenne d'Europe 1, de nous avoir donné de l'espoir, puisque c'était ça l'objet de votre appel. D'autant que Virginie, et là aussi, vous voyez comme il n'y a pas de hasard, Virginie nous a appelé pour ouvrir cette émission, pour nous parler de l'insomnie familiale fatale, hein, une maladie qui était peu connue, qui est peu connue, et grâce à elle qui va peut-être l'être davantage, et sa maman a été emportée de cette maladie, et elle nous a délivré un très beau message d'espoir pour que la mort de sa mère ait du sens, et vous nous appelez juste derrière pour nous parler aussi de cet espoir que l'on doit garder, parce que la vie ne s'arrête pas à la matière.
Oui.
Donc un grand merci, Sylvie. Prenez soin de vous.
Je vous en prie.
Prenez soin
merci
de vous.
Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Merci, au revoir. Notez aussi que les après-midi récits du week-end sur Europe 1, c'est tous les samedis et tous les dimanches de 14h à 16h. Donc samedi, dimanche, tous les week-ends, Europe 1 vous donne rendez-vous de 14h à 16h pour vos après-midi récits. Christophe Ondelat, à 14h, vous raconte les affaires criminelles qui ont marqué les Français. À 15h, plongez au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud. Des récits à télécharger en podcast ou à réécouter en replay sur toutes vos plateformes d'écoute sur Europe 1.fr et l'application Europe 1, tout comme la Libre Antenne.